This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Cette année-là, 1968, c'est le printemps de Prague pour instaurer un socialisme à visage humain, disait-on à Prague. Le rideau de fer qui sépare l'Est de l'Ouest s'entr'ouvre. Ça ne durera que quelques mois. C'est une tentative qui va voir le jour en Tchécoslovaquie, tentative pour libéraliser le régime dictatorial de Novotny, à la fois président et secrétaire général du PC tchécoslovaque. Alexandre Dubček, communiste lui aussi, un peu moins orthodoxe, va tenter en devenant secrétaire général du parti tchécoslovaque, va tenter de réformer prudemment le régime. Malheureusement, cette tentative sera vaine.
Au début de l'année 1968, sous la direction du Slovaque Alexander Dubček, la Tchécoslovaquie connaît une période intense de mutations et de réformes sociales et économiques, connue sous le nom de « Printemps de Prague ». Désireux de ne pas voir cette situation faire tache d'huile derrière le rideau de fer, l'URSS prend alors une décision radicale. Dans la matinée du 21 août 1968, près de 400 000 hommes et des milliers de chars des forces armées du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie et pénètrent dans Prague. En moins de deux jours, les communistes reprennent les rênes du pouvoir. Le printemps de Prague, cette brève période d'espoir démocratique pour la Tchécoslovaquie, est terminée. Écrasé sous les chenilles des chars T-62 soviétiques.
Le bloc soviétique n'a pas pu accepter qu'un pays fasse sécession. C'eût été courir le risque de voir l'affaire faire tache d'huile. Car en effet, la Tchécoslovaquie est située en plein centre de l'Europe centrale, avec d'un côté l'Autriche, une frontière commune par laquelle le monde occidental pénètre assez régulièrement en Tchécoslovaquie. Les échanges sont importants, échanges culturels, échanges économiques. Et donc, toute modification de l'équilibre global du bloc de l'Est met en péril l'ensemble du bloc. Et donc, les Soviétiques ne peuvent pas le tolérer. Alors, après plusieurs semaines de discussions, où Alexandre Dubček donne tous les signes de confiance qui permet de penser qu'il va rester dans le bloc de l'Est et qu'il n'est pas question de renoncer au régime communiste, et bien malgré toutes ces discussions, Léonid Brejnev, probablement l'un des dirigeants soviétiques les plus staliniens, les plus proches de la police politique, dont il a été un des dirigeants d'ailleurs, Léonid Brejnev donc ne va pas accepter cette situation, et ça va être entre la nuit du 20 au 21 août l'invasion.
Le 21 août, le monde apprend avec stupeur que les forces armées soviétiques, hongroises, polonaises, bulgares et est-allemandes ont pénétré sur le territoire tchécoslovaque. Une profonde consternation se lit sur tous les visages. Les Tchécoslovaques ne comprennent pas ce coup de force, cette violation de l'indépendance de leur pays. Tandis que les troupes investissent la capitale, les bruits les plus alarmants courent. Le gouvernement serait prisonnier. Certains de ses membres auraient disparu. Il n'en était rien. Les incidents sont fréquents. Il faudra beaucoup de sang-froid de part et d'autre pour éviter les affrontements sanglants. Face à la détermination des Tchèques, on sent chez les Soviétiques le souci d'éviter l'irréparable.
Et c'est pour ça que vous voyez aussi que les jeunes qui se reposent, c'est partout la question de la jeunesse. D'abord, ils étaient désespérés. désespéré, comme si vous voyez tout d'un coup la fille que vous adorez tuée méchamment. Et la maison de la radio. Parce que les gens savaient que la radio, c'était vraiment le cerveau du pays. Alors ils se sont rassemblés là pour arrêter les tanks de prendre le bâtiment. Alors là, il y avait des morts. Il y avait des maisons brûlées. C'était là vraiment qu'il y avait une bataille. Un lieu clandestin.
Voilà quelques témoignages de ce qui s'est passé à partir de l'invasion. Alors les forces soviétiques vont évidemment occuper le pays pendant plusieurs semaines et elles vont rester jusqu'en 1991. Le système soviétique va occuper. En 1991, il va y avoir une sorte de desserrement de l'étau soviétique, mais jusque-là, la botte russe va s'imposer sur le pays. Alors, pendant cette occupation, évidemment, le peuple tchécoslovaque va réagir, il va y avoir de nombreuses manifestations, et le pays va être complètement blackouté, c'est-à-dire que même des journalistes parfaitement autorisés ne pourront pas rentrer dans le pays pour rendre compte de ce qui s'y passe. Alors il en est un, Alex Descotes, qui a des contacts à Prague, va de Genève avoir des conversations téléphoniques pour avoir des informations sur ce qui se passe. Alors il se trouve que toutes les communications, malgré tout, elles sont à la fois autorisées et interdites, sachant que le régime de Prague, le nouveau régime de Prague, essaie de limiter les dégâts. Et vous allez voir, en écoutant bien, au bout d'un moment, la communication va être interrompue entre le journaliste d'Europe 1 et sa correspondante.
Oui, au téléphone, Micheline Hubert.
Écoutez, je vous téléphone de Genève, nous n'avons que 3 minutes.
Oui, d'accord. Que voulez-vous savoir exactement? Entendez-vous la radio Prague? Pouvez-vous la monitorer?
Oui, nous monitorons Radio Prague. Mais j'aimerais savoir ce qu'il s'est passé à propos de la manifestation près de la place Venceslav tout à l'heure.
Le commandant en chef des armées du pacte de Varsovie a menacé Prague d'instaurer la loi martiale si la manifestation a lieu. Les jeunes ont refusé de se disperser.
Et quelle est l'attitude de la population? Pensez-vous que la population devienne plus nerveuse maintenant?
Non, la population est plus que formidable. La population est d'un côté nerveuse, mais entre autres, on vient d'annoncer ce soir qu'un jeune soviétique, lors de l'occupation de l'Académie des sciences à Prague, s'est suicidé.
Que dit la population des différentes personnes que Moscou cite comme ayant demandé la protection soviétique?
Alors, à propos de Indra, par exemple, les habitants de son village natal et de la ville où il était employé à la gare ont déclaré qu'il ne doit jamais apparaître devant eux car il le chasserait comme un sale chien et un chien empesté de leurs alentours.
On pense donc que ceux-là ont vraiment trahi et non,
oui,
pas, et non pas que Moscou a cité leur nom sans leur autorisation.
Non, on pense que c'est des traîtres.
Combien y en a-t-il de traîtres?
Voilà, écoutez, excusez-moi monsieur, les 3 minutes sont passées. Vous pouvez dire au revoir.
Oui, au revoir et j'espère à bientôt.
Nous voulons savoir à Prague, vous entendez les 700 mètres?
Oui.
Il y a un appel lancé aux amateurs des postes émetteurs. Troublez les 210 mètres, c'est le poste de l'Allemagne de l'Est, Voltava.
Bien, nous devons nous séparer, j'espère à demain.
À demain.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà donc témoignage d'une époque que l'on espère révolue. Encore que rien ne nous l'assure, mais qui peut-être rafraîchira la mémoire des plus anciens et éclairera les plus jeunes sur les risques que font courir les États totalitaires. Alors, dans la dernière partie de cette conversation, la correspondante fait allusion à une personne qui aurait donc fait appel aux soviétiques. Alors ça, c'était la caution, on va dire l'alibi qu'avaient trouvé les soviétiques en disant que, en réalité, c'est une partie des Tchèques qui les avait appelés à l'aide devant le soulèvement qui risquait de se produire et donc le désordre qui allait s'en suivre. Donc ils seraient, d'après eux, intervenus à la demande des Tchécoslovaques, ce qui évidemment est parfaitement faux. Mais il fallait bien une justification pour que les troupes du pacte de Varsovie, tout pays confondu d'ailleurs, hein, puisque tous les voisins ont fourni des militaires, pour que ces forces du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie. Alors ce qui est dramatique, c'est que le monde occidental restera totalement de marbre. L'information circulera, mais personne n'interviendra. Et surtout pas les forces de l'OTAN qui... comme son nom l'indique, organisation transatlantique nord, regroupe l'ensemble de l'Europe occidentale en termes de défense, eh bien l'OTAN ne bronchera pas et regardera imperturbablement les forces soviétiques s'installer en Tchécoslovaquie. Il faut dire que les Américains, eux, étaient préoccupés par autre chose, et ça s'appelait la guerre du Vietnam. En France, eh bien en France, à ce moment-là, musicalement, un musicien dont on a parlé hier, Serge Gainsbourg, commence à faire des musiques de films en quantité et il en est une qui est significative. Ne voyez aucune relation entre le titre de ce morceau et ce qui a précédé, Requiem pour un con.
Les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème. Tu ne trouves pas, non, semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cet air-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes? Tu n'apprécies pas, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même, pauvre con. Écoute les orgues. Elle joue pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes. C'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Figure blême au mur des prisons, j'inscrirai moi-même, pauvre con.
Dans la carrière de Serge Gainsbourg, les musiques de films ont une importance assez considérable à côté des chansons. Et on voit bien que cette année-là, en 1968 donc, il va enregistrer deux albums complets et prévoir un troisième album, puisque c'est en fin de l'année 68 qu'il va enregistrer 1969, année érotique. Alors un musicien très indépendant, un musicien de jazz américain, noir américain, très indépendant, participe au festival Jazz à Newport. C'est un musicien un peu assez atypique. Il joue de toutes les hanches et même de la flûte. Il s'appelle Roland Kirk Il ne fait partie d'aucune école, d'aucun mouvement particulier. Il a une grande admiration pour John Coltrane, bien sûr, mais comme saxophoniste, qui n'a pas d'admiration pour John Coltrane. Et il a comme particularité de jouer quelquefois de plusieurs instruments en même temps. Et c'est ainsi qu'il peut avoir en bouche un saxo soprano et un saxo ténor. Et grâce à une capacité de souffle particulièrement impressionnante et spectaculaire, il joue des deux instruments en même temps. Il est donc aveugle. Il se produit avec une grande formation, extrêmement colorée, assez luxuriante en termes sonores. Et je vous propose d'écouter le titre de l'album qui sera réalisé à partir de sa prestation à Newport, « Voluntold Slavery ». Roland Kirk, servitude volontaire, Voluntary Slavery, une composition de Roland Kirk qui joue du saxophone ténor, du saxophone soprano, de la flûte de nez, parce qu'il il mettait une flûte dans une de ses narines, il soufflait aussi avec son nez, du stritch, du gong, du sifflet. Et puis, comme on l'entendait là, il chantait avec ses compagnons. Alors, compagnons qui sont Charles McGee à la trompette, Dick Griffin au trombone, Ron Burton au piano, Vernon Martin à la basse. Et il n'y a pas moins de 3 percussionnistes, Sonny Brown, Jimmy Hopes et Charles Crosby. Voilà, c'était enregistré donc, au festival Jazz à Newport en 1968. Eh bien, ces années-là, comme toutes les autres d'ailleurs, Miles Davis fait toujours parler de lui. C'est le musicien de jazz qui a traversé toute la période. Et donc, il est en train d'évoluer un peu. On est dans la période du deuxième quintet historique. Quintet qui réunit donc Herbie Hancock, Wayne Shorter, Tony Williams et Ron Carter. Et il va peu à peu introduire l'électricité, si je puis dire, dans son quintet. Et donc, la musique va se situer un peu entre l'acoustique et l'électrique. Je vous propose d'écouter un extrait de l'album intitulé « Miles in the Sky ». Thank you. Voilà, extrait d'un morceau qui est très très long. J'espère que vous aurez apprécié d'abord l'unisson entre Wayne Shorter au saxophone et Miles à la trompette. Il n'y a pas l'ombre d'un papier à cigarette. Ils se suivent, mais alors de façon merveilleuse. Et puis on ne dira jamais assez la qualité pour toute la couleur du morceau, la qualité du travail que fait Tony Williams, ce batteur exceptionnel. Qui à la fois assure un tempo absolument sans faille et en même temps se permet quelques dérives, quelques petites incursions ici ou là et qui donne une espèce de relief absolument remarquable à la partie de percussion. Et Miles Davis, donc toujours très productif, travaille beaucoup et donc la même année, cette année-là, 68, eh bien, il enregistre un autre album. Toujours dans le même couleur musicale, c'est-à-dire avec cette évolution progressive vers l'électrique. Et dans cet album, il y a donc à la fois le deuxième quartet historique, c'est ainsi qu'on l'appelle, avec Shorter, Hancock, Carter et Williams, mais donc deux autres musiciens par moment interviennent dans certains morceaux. Il s'agit de Chick Corea au clavier et de Dave Holland à la contrebasse. Cet album, Les filles du Kilimanjaro, a donc été publié la même année. Et ce qu'il faut dire et qui ne figure pas dans l'album, c'est que c'est Gil Evans, vieux complice de Miles Davis, qui a aidé à la réalisation finale, aux arrangements de cet album, même si son nom ne figure pas sur la pochette. Je vous propose d'écouter un extrait des filles de Kilimanjaro. Voilà, ainsi s'achève ce deuxième épisode de l'année 1968. Demain, un troisième épisode, mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.